Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
On va lire les textes en lien avec la prédication. Donc le premier texte principal qu'on va lire se trouve en Luc. J'aurais dû vous dire de garder un doigt dedans puisqu'on va aller dans Luc chapitre 2. Donc voilà, vous retrouverez peut-être quand même plus rapidement le chemin. Luc chapitre 2, et puis on lira les versets 8 à 15. Luc chapitre 2, les versets 8 à 15. Donc on est à l'annonce qui est faite aux bergers, par les anges aux bergers, en lien avec la naissance de Jésus. Luc chapitre 2, verset 8. « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et puis un deuxième texte dans Hébreux, au chapitre 1, et on lira les versets 1 à 14. Épître aux Hébreux, chapitre 1, les versets 1 à 14. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Et quand, de nouveau, il introduit le premier-né dans le monde, il dit « Que tous les anges de Dieu l'adorent. » Et il dit des anges. Il fait de ses anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Mais au fils, il dit « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint avec une huile d'allégresse de préférence à tes compagnons. » Et encore, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi, tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les dérouleras comme un manteau, et ils seront changés comme un vêtement. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà pour les textes principaux, en tout cas, qui soutiendront la prédication qu'on entendra.
Sans lumière, impossible de fêter Noël. Vous pouvez essayer à la maison, éteindre toutes les lumières. C'est très difficile. Eh bien, sans la lumière du Saint-Esprit, la parole de Dieu ne va pas beaucoup éclairer notre cœur. Nous avons besoin de son œuvre encore aujourd'hui pour saisir et comprendre ce qu'il veut nous apprendre. À Noël, nous voyons les cadeaux, les lumières, etc. Et c'est aussi dans cette période que nous voyons plus d'anges dans les vitrines et dans les décorations. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. On en a beaucoup moins dans l'année, et puis c'est là qu'on en voit un peu plus. Et dans ces cultes de Noël, nous avons déjà parlé de toutes sortes de sujets en lien avec Jésus-Christ et sa naissance et tout ce qui l'entoure. Hein, si je fais un petit peu une révision, j'ai regardé. En fait, ça fait déjà la 13e fois qu'on parle en fait, d'un sujet de Noël ensemble. On a parlé de la foi de toutes les personnes qui ont rencontré Jésus à sa naissance ou que l'on rencontre à sa naissance. Ce qui est l'incarnation, ce qui est la divinité de Jésus-Christ. On a parlé de sa généalogie, de la naissance virginale, de la naissance du roi, du prophète, du prêtre. On a parlé des mages. D'où venaient-ils ? Qui ils étaient ? On a parlé aussi ensemble des bergers. On a parlé de la maman de Jésus. Et l'année passée, on a même parlé du papa de Jésus. Enfin, on a vu que c'était un peu particulier. Alors, de quoi allons-nous parler cette année ? Alors, il est bon de répéter les fondements, il est bon de parler de choses qu'on a déjà vues. Hein, des fois, on veut toujours de la nouveauté. Et je pense qu'il est important de revenir parfois à des choses qu'on a déjà entendues, surtout que des personnes ici l'ont entendu il y a déjà 12 ans. Hein, donc, on pourrait reprendre quelque chose qu'on a déjà vu, ou bien des nouvelles personnes sont arrivées. Mais je me demandais s'il y avait quand même quelque chose qu'on n'a encore pas parlé ensemble. Un élément me trottait en fait dans la tête depuis un certain temps, c'est quelle est la place des anges, en fait, dans la naissance de Jésus, dans sa vie, et par extension, dans la nôtre. Et nous allons donc aujourd'hui réfléchir au rôle des anges qui annoncent la venue et qui sont au service de Jésus-Christ. Tout d'abord, nous allons réfléchir à qui ils sont. Ça sera notre premier point. Les anges sont créés par Jésus. Ça sera le premier point. Ensuite, nous partirons de leurs actions autour de la naissance de Jésus pour l'étendre dans toute sa vie. Le deuxième point, les anges au service de Dieu pour la gloire de Jésus. Et dans un troisième temps, nous réfléchirons au rôle des anges envers ceux qui sont sauvés par Jésus. Troisième point, les anges en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Et nous terminerons par quelque part une apothéose où on lira que Jésus est plus grand que tous les anges. Voilà donc le menu de ce matin. Premièrement, les anges sont créés par Dieu. Alors les enfants du groupe d'enfants apprennent le catéchisme pour jeunes enfants par cœur. Alors nous allons voir si vous arrivez à répondre en tout cas aux deux premières questions. Alors, question 1. Qui t'a créé ? Guillaume. Dieu, magnifique, excellent. Deuxième question. Question 2. Dieu t'a créé et qu'a-t-il fait d'autre ? Je vois que les jeunes qui ont l'habitude. Allez-y, allez-y. Vas-y, Samuel. Il a créé toutes choses. Bravo, toutes choses. Ça, c'est les deux premières questions, hein, donc ça va. Hein. Eh bien, si Dieu a créé toutes choses, cela signifie qu'il a créé les anges aussi. Simplement, il a créé les anges aussi. Et Jean 1, 1 à 3 nous permet de comprendre que Jésus était avec Dieu et que rien n'a été fait sans Jésus. Il a donc créé les anges. Les anges sont des créatures dans le monde spirituel comme nous sommes des créatures dans le monde matériel. Les anges peuvent se montrer dans notre monde. Nous, on ne peut pas se montrer dans l'autre monde actuellement, mais les anges peuvent se montrer dans notre monde. Et il y a plusieurs différences entre nous et les anges. Hein, les deux premières que je vais vous donner sont, à mon avis, les plus importantes, mais il y en a plusieurs. La première, c'est que les anges qui n'ont pas péché ne sont pas déchus. Les anges qui n'ont pas péché ne sont pas déchus et ils adorent Dieu parfaitement depuis la création jusqu'à maintenant. Donc on peut dire qu'il y a une parfaite adoration de Dieu, d'être créé, que sont les anges qui n'ont pas péché. Les anges qui n'ont pas péché ne sont pas déchus et adorent Dieu parfaitement depuis la création jusqu'à maintenant. Nous, nous sommes tous touchés par le péché. Et même rachetés par Christ, ici-bas, le péché a encore de l'effet sur nous. Donc ça, c'est une première différence. Deuxièmement, les anges qui se sont révoltés contre Dieu, que l'on appelle aussi les démons, n'ont pas de retour possible. Aucun moyen de salut. Ils sont réservés pour le jugement. Donc les anges qui se sont révoltés contre Dieu, que l'on appelle aussi les démons, n'ont pas de retour possible, aucun moyen de salut. Ils sont réservés pour le jugement. Nous avons par contre cette grâce d'avoir un plan de rédemption malgré le péché de nos premiers parents. Les anges sont immortels et ils ne se marient pas et ni ne se reproduisent, au contraire de ce que nous vivons sur cette terre. La parole de Dieu n'a pas été écrite pour les anges, mais pour les hommes. Ça aussi, c'est une différence. Et les anges nous sont supérieurs en force et en puissance, on le voit dans 2 Pierre 2:10. Après ces quelques différences avec nous, voici quelques caractéristiques dans la relation des anges avec les hommes. Lorsqu'ils prennent la forme visible à nos yeux, ils sont semblables à un homme souvent vêtu de blanc. C'est ce qui nous est rapporté particulièrement dans le Nouveau Testament. Lorsqu'ils prennent une forme visible, voilà, c'est comme des jeunes hommes avec une robe blanche. On le voit à la résurrection, par exemple. Un autre élément, c'est que les anges parlent la langue de leurs interlocuteurs. Les bergers n'ont pas eu besoin de DeepL pour traduire entre le langage des anges et puis ce qu'eux comprenaient. Les anges parlent la langue de ceux à qui ils s'adressent. En araméen, par exemple, pour les bergers. Et les anges adorent Dieu avec les saints dans le ciel. Et en fait, pour l'éternité, tous ceux qui sont en Christ adoreront Dieu avec les anges pour l'éternité. Une petite particularité, seuls 2 anges sont nommés dans la Bible. Vous savez lesquels qui sont nommés dans la Bible ? Ah, il y a Gabriel à Noël. Gabriel, il est quand même bien présent. Alors, Gabriel, on l'a déjà vu avant parce qu'il a rencontré Daniel aussi. Gabriel a rencontré Daniel et puis ensuite, il a parlé à Zacharie et à Marie. Puis, il y en a un deuxième. Michel, exactement, qui, lui, en fait, a rencontré Daniel. Voilà, c'est les 2 seuls de qui on a le nom dans la Bible. Il n'y en a pas d'autres. Et ils ont été, donc tous les anges ont été particulièrement actifs au moment de la venue de Jésus sur terre, et même un tout petit peu avant sa naissance. Et nous pouvons apprendre, si on commence à réfléchir et si vous regardez tout ce que les anges ont vécu, qu'ils sont restés, pour ceux qui sont restés fidèles à Dieu, qu'ils sont soumis à Dieu. Ils sont fidèles à Dieu, ils sont intègres, ils sont loyaux, sans faille envers Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir de tous ces anges fidèles, c'est ceux qui n'ont pas péché. Ils sont soumis totalement, ils sont intègres. On peut voir la loyauté sans faille envers Dieu. Alors, on va voir un petit peu maintenant qu'est-ce qui se passe autour de la vie de Jésus. C'est le deuxième point, les anges au service de Dieu pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de ce que l'ange a dit au berger ? Alors là, il faut aller dans Luc 2, 9 à 12. Alors là, je vais essayer un truc que je n'ai encore pas fait. C'est dans Luca 2. Dvejech dva natsiech. Bon, vous n'avez pas compris, mais peut-être certains ont compris que c'était Luc 2, 9, 12. Voilà. Donc, comme ça, on peut voir dans nos Bibles, qu'est-ce qu'ils ont dit. Alors, regardez là, dans la Bible. Donc, on voit ici qu'ils sont dans les champs, ces bergers, qu'un ange leur apparut. Il faut saisir de crainte. Et verset 10, mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. » Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Donc là, ils annoncent la venue de celui qui est le sauveur, qui est le Christ, qui est le Seigneur. Là, on pourrait déjà faire toute une prédication juste sur ces 3 termes qu'ils utilisent pour focaliser sur Jésus-Christ. Et que disent ensuite la chorale ou l'armée des cieux Il est parlé ici même d'une multitude de l'armée céleste. Ça doit être extraordinaire de cette multitude qui a chanté quelque part les louanges de Dieu. Il disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre ». Parmi les hommes. En fait, il est assez évident que les anges sont dans une grande joie. Les anges sont dans une grande joie lors de la naissance de Jésus, pour qui ils ont un profond respect. Vraiment un profond respect. Et pour les anges, ça devait être assez particulier parce qu'ils le connaissaient, Jésus. Il existait avant de venir sur la terre. Et les anges le connaissaient. Mais c'est là tout à coup qu'ils le découvrent en tant qu'homme, qu'il devient homme. Quelque chose de impressionnant, je pense, pour tous ces êtres qui le connaissaient avant déjà. Donc ils sont remplis d'une grande joie lors de la naissance de Jésus. Et c'est autour de Jésus qui est venu sur terre que nous voyons le plus d'actions des anges dans le Nouveau Testament. Hein ? On va un petit peu réfléchir à quand est-ce que les anges sont intervenus. Est-ce que vous vous souvenez quand un ange est intervenu dans le Nouveau Testament ? La première fois. Vous avez une idée ? C'est dans le temple. La première fois. Dans le temple. Et il s'adresse à Zacharie. Qui lui annonce le précurseur de celui qui annonce la venue de Jésus-Christ. Et il va même donner son nom, il s'appelle Gabriel, c'est celui-ci, hein, donc dans Luc 1. Ensuite, deuxièmement, quelle est la deuxième apparition d'un ange ? Marie, exactement, l'ange Gabriel va annoncer à Marie qu'elle sera enceinte. Donc ça, c'est la deuxième fois qu'un ange apparaît. La troisième fois qu'un ange apparaît. Alors Joseph, oui, c'est vrai. Avec Joseph, c'est particulier parce qu'il apparaît dans un songe ou dans un rêve pour lui dire de prendre Marie pour épouse. Alors qu'elle est enceinte, hein, il est fiancé, et puis il dit, va vers Marie, prends-la comme femme, elle est enceinte. Bon, voilà, il fallait bien un ange pour aider Joseph à comprendre que c'était important et juste de le faire comme ça. C'est vrai. Ensuite, la fois suivante, on voit des anges ou un ange ? Ben, les bergers à Bethléem, exactement. Hein, où il est rejoint par une multitude d'anges qui chantent, exactement. Et puis ensuite, quelle est la fois suivante où on voit un ange ? Jusque-là, tout est connu, facile, hein ? Suivant. Hommage. Alors la Bible nous dit que les mages ont été divinement avertis. Est-ce qu'un ange est intervenu ? Je ne sais pas. Donc peut-être. Donc, je ne peux pas dire si la réponse est juste ou fausse. Simplement, la Bible ne nous permet pas de dire que c'est un ange absolument qui a réagi à ce moment-là. Par contre, il y a quelque chose qui se passe assez proche de cet événement-là. Pardon ? Ah non, c'est avant. Non, c'est avant, c'est en fait à Joseph. Puisque Joseph, en fait, a été averti de partir en Égypte. Et là, c'est de nouveau un ange qui se manifeste à Joseph dans un songe. OK ? Et puis ensuite... La fois suivante, ben c'est de nouveau à Joseph. Mais là, c'est plus tard en Égypte pour revenir. Et les anges sont actifs, hein, on les voit, et ils sont actifs de manière nommée, on le dit. Hein. Et puis ensuite, ben on arrive avec les anges qui servent Jésus dans le désert, c'est vrai, après la tentation. Donc là, on a de nouveau des anges qui sont là en train de servir Jésus. Ça, c'est écrit dans Matthieu 4 ou Marc 1. À quel moment voyons-nous encore un ange ? Dans la suite de l'histoire de Jésus. À la résurrection, mais il y a encore avant. Mais c'est juste, c'est un lieu très important, la résurrection, où les anges jouent un rôle, mais avant. Dans le jardin de Gethsémane, exactement, où là on voit un ange qui est venu fortifier Jésus lorsqu'il est dans une profonde angoisse à Gethsémane. Et il est vrai qu'ensuite, à la résurrection, il est même dit dans Matthieu que c'est un ange qui est venu rouler la pierre, qui s'est assis dessus d'ailleurs. Puis il y a d'autres anges qui étaient là, qui ont annoncé à ceux qui sont venus aussi que Jésus était ressuscité. Et puis ensuite, encore en lien avec Jésus, dernière fois qu'on voit des anges. Là, je vous fais un peu travailler ce matin, hein, on est en train de faire toute l'histoire, mais... À l'ascension, exactement. Jésus s'en est allé, et donc les disciples, tout à coup, n'ont plus vu Jésus, il était pris dans une nuée. Et voilà que deux, et là, c'est vrai qu'il est... Il n'est pas dit ange, c'est en fait deux personnes qui étaient habillées de blanc qui leur parlent. C'est assez clair que ce sont des anges. Donc on compte une dizaine d'interventions d'anges qui sont rapportées en lien avec Jésus ici. Une dizaine. Et chaque fois, l'attitude et les paroles des anges lui sont favorables et on voit un grand respect qui s'en dégage pour Jésus. Un très grand respect. Donc il y a une dizaine de fois. Et Jésus dira d'ailleurs durant son ministère que les anges auront un rôle important lors de son avènement. Lorsqu'il reviendra en gloire, les anges seront actifs à nouveau de manière extensive. Donc j'aimerais que, avec ce que j'ai fait là avec vous, vous aider à enlever de votre tête l'idée que les anges qui ont agi pendant la période de vie de Jésus sur terre sont des êtres avec des ailes dans le dos, comme ils sont souvent présentés ou représentés pendant les temps de Noël. Non.
C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il est question d'ailes pour des êtres angéliques particuliers. C'est vrai. Mais nous ne trouvons pas de traces de ce genre de description dans le Nouveau Testament, en dehors du langage symbolique qu'on trouvera dans l'Apocalypse. Mais sinon, vous ne trouvez pas ce langage. Donc ce sont en fait des personnes, comme des personnes. D'ailleurs, Hébreu dira même qu'on peut accueillir des anges sans même le savoir. Donc les anges étaient focalisés sur Jésus-Christ. Et même lorsqu'il est parti, le rôle continue d'être vécu dans l'objectif de faciliter l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est les anges, ils sont focalisés. C'est leur maître, en fait. Et leur objectif, c'est de faciliter l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va voir dans ce troisième point. Les anges en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et là, un texte clé, c'est Hébreux 1, 14. Ce texte d'Hébreux 1, 14, il faut le connaître. C'est le texte clé par rapport aux anges. Il indique le plus clairement le rôle des anges envers les élus, ceux qui croient en Jésus-Christ, en qui le Saint-Esprit habite et qui héritent du salut. Donc Hébreux 1, 14. Donc là, je vais de nouveau essayer de le dire en ukrainien. C'est Yerev. Non. Yevrevei. Ouais, c'est ça. Oden. Chotere Natsiech, 1.14. Ça va? C'est juste? Ok, super. Donc, Hébreux 1.14, où nous voyons là qu'il est écrit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Et on le voit, hein, l'ange qui annonce le message au berger, il leur annonce le salut. C'est vraiment dans le but, en fait, de servir un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. En fait, les anges sont les plus grands supporters de Dieu et de son œuvre. Si vous vous imaginez des supporters dans un stade, eh bien, je vous assure que les anges qui chantaient du temps des bergers, c'était bien plus puissant que cela. Ils sont fans de Dieu et de ce qu'il fait, en fait, hein. Donc, ils manifestent clairement leur joie. Et les anges sont tellement heureux qu'ils se réjouissent aussi lorsque les pécheurs se repentent. Ça, c'est Jésus qui le dit dans Luc 15, 10. De même, je vous le dis, il y a dans le ciel, devant les anges de Dieu, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors, au début de l'histoire de l'Église, nous voyons plusieurs interventions d'anges. Alors là, vous allez de nouveau m'aider, parce que maintenant, on est parti dans les actes. Hein, Jésus est reparti. Puis là, à quel moment les anges interviennent? Bon, ben, on va refaire un petit peu l'exercice ensemble. Quelle est la première intervention d'un ange que l'on voit dans l'histoire de l'Église? Dans la prison. Ouais, alors t'as pas pris de risque, parce qu'il y a deux fois. Donc, la première fois, dans la prison, c'est où tous les apôtres avaient été mis en prison. Et un ange les ressort. Exactement. Deuxième moment, c'est quand un ange demande à Philippe d'aller dans un endroit où il rencontrera un eunuque éthiopien. Donc c'est un ange qui a dit « va là-bas » et il va et il rencontre l'eunuque éthiopien. C'est dans Actes 8, 26. Ensuite, nous voyons qu'un ange va agir d'une manière aussi particulière pour que les païens entrent aussi dans l'église et c'est un ange qui va se manifester à Corneille. C'est pas un oiseau, hein, c'est un homme. Il s'appelle Corneille. Voilà, c'est comme ça. Je peux pas vous expliquer pourquoi il y a ce nom-là, mais voilà, c'est son nom. Donc, c'est un Romain qui est bien placé au niveau militaire. Et puis, il a une vision. Un ange lui parle. Il va chercher Pierre à Jaffa. Hein, et donc, il envoie Pierre. Et c'est très intéressant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais l'ange ne lui annonce pas l'Évangile. L'ange lui dit va chercher Pierre. C'est Pierre qui devra lui annoncer l'Évangile. Mais il facilite, en fait, cette notion. Donc, ça, c'est un élément qu'on peut remarquer ici. Ensuite, la fois suivante où on voit un ange agir, eh bien, c'est quand Pierre est en prison. Ça, c'est assez connu. Hein. On voit l'ange qui vient, qui le fait sortir. Pierre, il n'y comprend rien du tout. Puis quand il est dehors, et puis tout à coup, la fraîcheur du vent le fait un petit peu revenir à ses esprits. Il dit, il y a un ange qui m'a sorti de prison. Enfin, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et donc, quand il a été vers l'église qui priait, qu'est-ce qui s'est passé? Il frappe à la porte et tout. Il y a quelqu'un qui reconnaît sa voix. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils ouvrent la porte, ils disent, non, ils n'ouvrent pas la porte. Ils vont dire, il y a peut-être Pierre qui est là, puis ils disent, c'est peut-être son ange. Enfin, ils parlent de nouveau d'ange dans cette histoire-là. Heureusement qu'ils ont ouvert la porte après. Hein. Mais on voit là qu'un ange a délivré Pierre. Quel est l'élément suivant qu'on voit dans le Nouveau Testament de l'œuvre d'un ange? Pardon? Alors Paul, c'est plus tard, mais c'est juste. Paul aura aussi la visite d'un ange, c'est exact, c'est exact. Alors, sur le chemin de Damas, c'est pas un ange, c'est Jésus-Christ lui-même, hein. Donc que ça soit clair. En fait, l'élément suivant, c'est qu'un ange frappe Hérode qui meurt parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. C'est là qu'on a un ange de nouveau. Et ça me permet d'indiquer ici un autre rôle des anges, qui sont en fait des exécuteurs de jugement. Hein. Comme lors de la dixième plaie d'Égypte, on voit l'ange qui va, destructeur, hein, qui va pour tous les premiers-nés, où il n'y a pas de sang sur les portes, c'est un ange qui fait ça. Ou lors de la peste du temps de David, etc. Donc on voit que les anges ont aussi un rôle de jugement à accomplir. Si je continue encore, donc on arrive à Paul exactement, donc Paul qui était en train de dériver, ne savait pas où ils étaient dans la mer, et puis juste avant qu'ils arrivent donc à Malte, eh bien un ange s'adresse à Paul et dit « Moi je veux, l'Éternel veut que tu ailles à Rome et tout l'équipage sera sauvé avec toi. » Donc là c'est un ange aussi qui se manifeste, et il y a une dernière fois, on voit un ange, c'est donc un ange qui est envoyé à Jean pour lui révéler Jésus-Christ et ce qui doit arriver. Et ensuite, dans le livre d'Apocalypse, alors là, on parle de nouveau beaucoup d'anges. Okay? Mais là, on n'est plus directement dans une relation avec un être humain qui vit ici-bas. C'est quelque chose qui est plus symbolique, qui va se passer, enfin, etc. Mais avec des relations avec des personnes, c'est Jean qui a ce dernier lien avec un ange. Et là, on voit qu'il y en a 7 fois. Donc, il y avait 10 pour Jésus. Donc, c'était vraiment... Puis là, 7 sur tout l'ensemble, en fait, de ce temps jusqu'à Jean, où il est question de la présence d'un ange en lien avec des personnes dans le Nouveau Testament, en dehors du lien direct avec Jésus. Okay, ça, c'est 7 fois, c'est les 7 fois où il est question de la présence d'un ange en lien avec des personnes dans le Nouveau Testament. Alors, il est probable qu'il y ait eu d'autres manifestations à cette époque, comme c'est le cas aussi actuellement, mais la parole de Dieu ne nous en révèle pas plus, parce qu'elle nous montre l'importance de l'œuvre des anges était quand Jésus-Christ était là. Et la prochaine fois que ça sera important, c'est quand Jésus-Christ reviendra. Donc ça, c'est des éléments. Mais entre Dieu, Dieu peut agir, c'est vrai. Et j'ai été très marqué dans mon enfance. Je vous ai déjà raconté une fois cette histoire, mais je la raconte encore parce que ça m'a vraiment beaucoup marqué. On voit 2 missionnaires qui étaient dans la jungle, en fait, et qui n'arrivaient pas à atteindre la station missionnaire avant la nuit et qui ont dû, en fait, camper dans la jungle. Et puis ces deux dames, elles se sont dit, on va remettre ça entre les mains du Seigneur, et puis on va dormir là, on n'a pas le choix. C'est un lieu qui était aussi infesté de toutes sortes de choses et de peuplé de personnes malveillantes aussi. Et en fait, à ce moment-là, un groupe de personnes priait pour eux dans un pays lointain, alors qu'elles dormaient. Et en fait, un groupe de personnes malveillantes sont venues et ont voulu les dévaliser, les attaquer. Et au moment où ils arrivent vers eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des soldats debout autour d'elles. C'est exactement le même nombre que ceux qui priaient d'ailleurs. Ça m'a aussi bien marqué cette histoire-là. Dieu avait placé ses anges autour de ses servantes pour les garder. Et c'est un homme justement qui avait voulu les attaquer, qui a témoigné avoir vu ces soldats protecteurs. Donc Dieu avait placé ses anges autour de ses servantes pour les garder. Et c'est un homme qui avait voulu les attaquer, qui a témoigné avoir vu ses soldats protecteurs. Et ce n'est pas la seule fois que des anges ont agi, peut-être même que vous en avez déjà eu dans votre propre vie. Par contre, il est important de constater, de comprendre que dans la Bible, aucune des interventions angéliques n'a été demandée par un homme. Regardez toute votre Bible, vous ne trouverez pas un endroit où il est demandé « je veux qu'un ange intervienne ». Trouverez pas. Les besoins étaient adressés à Dieu, qui ensuite utilise sa manière d'agir, et il peut le faire par des anges. Rappelons-nous ce qui est écrit dans Hébreux 1, 14. Hein. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Le rôle des anges est toujours en lien avec la gloire de Jésus, celui de qui nous aimons parler lors des fêtes de Noël. Donc si on voit un ange quelque part dans une décoration, n'hésitons pas à faire le lien avec celui qu'il est venu glorifier. Alors la décoration, souvent, elle n'est pas très sympathique parce que ça réduit vraiment la notion. Mais ça ne fait rien, c'est des manières aussi de parler de Christ. Et justement, le livre d'Hébreux nous permet de comprendre que malgré les capacités particulières et la proximité des anges avec Dieu, Jésus est de loin supérieur. Il est de loin supérieur. C'est ce que nous allons voir dans nos derniers points. Jésus est plus grand que tous les anges. Alors là, je vous invite à revenir dans le livre aux Hébreux, hein, si vous n'étiez pas maintenant avec Hébreux 1,14, parce qu'on va reprendre les versets précédents. Donc, le verset 14. Les versets 5 à 14. Mais avant, dans l'Apocalypse de Jean, nous voyons que Jean tombe aux pieds d'un ange pour l'adorer. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, si jamais vous lirez dans Apocalypse 19, 10 ou bien 22, 9, on voit qu'il tombe pour l'adorer et celui-ci réagit tout de suite en disant de ne pas l'adorer. L'ange, il ne va pas dire « Oh, c'est trop bien, il est en train de m'adorer. » Là, je suis... Non, tout de suite, il dit « Non, 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 non. Je suis ton compagnon. » Là, je vous lis l'Apocalypse 19, 10, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ça, c'est intéressant. Les anges, là, particulièrement avec Jean, c'est très, très clair. Hein, dès qu'un homme veut l'adorer, il dit, non, 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 adore Dieu. Jésus, par contre, n'a pas empêché Thomas de l'appeler Dieu, par exemple. Il n'a pas dit non, 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 non. Non. Hein? Jésus n'a pas empêché Thomas d'appeler Dieu. Dans Jean 20, 28 et 29, il est dit, Thomas lui répondit en parlant à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus répondit, Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Donc, bah, il souligne encore que ce que Thomas a dit était vrai. Hein? « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus est supérieur aux anges dans une multitude de domaines. Là, on voit cette notion déjà qu'il est Dieu. Mais une multitude de domaines, et Hébreux 1, de 1 à 14, en fait, nous donne quelques éléments. J'aimerais juste les voir rapidement pour qu'on saisisse quelque part que Christ est plus grand. Alors que les anges, c'est déjà magnifique, il est encore plus grand. Premièrement, Jésus est fils de Dieu, pas les anges. Les anges, alors, il est parfois parlé de fils de Dieu aussi dans le Testament pour parler des anges, hein, mais ils ne sont pas appelés fils de Dieu dans le sens que le Père l'appelle mon fils bien-aimé, etc. Ça n'existe pas, c'est que Jésus. Jésus est adoré par tous les anges aussi, alors que personne ne doit adorer les anges. Ça, on le voit aussi dans le texte. Jésus est sur le trône et il règne par les anges. Jésus est oint et l'onction de Jésus fait référence quand on parle d'onction dans la Bible et particulièrement avec Jésus, eh bien, on parle de ses fonctions. Il y a une fonction de prophète, de roi, de sacrificateur. Aucun ange n'est oint. Aucun. Jésus a fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Pas des anges. Ce n'est pas les anges qui ont créé quelque chose. Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. D'ailleurs, il le dit à ses disciples dans Matthieu 28. Il a reçu tout pouvoir. Pas les anges. Jésus est supérieur aux anges. C'est lui qui est devenu homme, qui est né d'une femme et qui a été couché dans une crèche. Dieu qui s'est abaissé pour nous rejoindre. Il n'est pas devenu un ange, hein? Il est devenu un homme pour racheter les humains. Donc ne nous laissons jamais tenter par l'adoration des anges. Ne nous laissons jamais tenter par l'adoration des anges, par la recherche de contact avec les anges. Ne nous laissons pas tenter par la recherche de contact avec les anges ou par quoi que ce soit qui nous fait chercher leur présence. Comme par exemple le Nouvel Âge en fait largement la promotion. Jules Marcel Nicole dit dans son précis de doctrine chrétienne, je vous le cite, « Nous n'avons pas à prendre l'initiative d'appeler un ange à l'aide, ni même prier Dieu de nous en envoyer un. C'est remarquable que parmi les interventions angéliques, si fréquentes dans les Écritures, il n'y en a pas une seule qui était directement sollicitée par des hommes. Il n'y en a pas une seule qui a été directement sollicitée par les hommes. Dieu est souverain. Nous devons lui exposer nos besoins, nos désirs, mais nous ne devons pas lui suggérer telle ou telle méthode d'exaucement. S'il veut nous répondre en utilisant des anges, fort bien. S'il a recours à d'autres moyens, c'est encore bien. Sa sagesse et sa puissance n'ont pas de limite et tout l'univers est à sa disposition. Pour nous, dès lors, dès que nous avons remis notre sort entre les mains de Dieu, nous pouvons avoir le cœur en paix. » Fin de citation. Et nous comprenons, en lisant Colossiens 2, 18 à 19, qu'il faut s'attacher au chef qui est Jésus-Christ et ne pas rendre un culte aux anges. Hein, c'est Colossiens 2, 18 et 19 qui en parle. Vous savez, si nous voulons les faveurs d'un roi, nous n'allons pas demander aux serviteurs d'agir au nom du roi en notre faveur. Il n'en a aucune légitimité. Hein. C'est vers le roi qu'il faut se tourner. C'est exactement la même chose avec Jésus et ses anges. C'est vers Jésus que nous allons, pas vers ses anges. Ou bien peut-être de façon plus moderne, si vous voulez de l'argent de Elon Musk, vous n'avez pas demandé à ses employés de vous donner son argent. Ce n'est pas possible. Il faut aller vers lui directement. D'ailleurs, toute l'histoire de Noël, dans toute l'histoire de Noël, vous ne voyez nulle part une initiative d'un homme ou d'une femme de prendre contact avec un ange. Vous ne voyez pas ça. C'est l'ange qui est envoyé par Dieu. C'est un employé de Dieu, si vous voulez, qui vient vers les personnes. Alors, nous avons parlé des anges parce que dans le temps de Noël, il est souvent encore question d'anges, et particulièrement dans les chants aussi et dans les décorations. Alors, souvenons-nous que les anges sont, selon Hébreux 1.14, c'est bon Hébreux 1.14, allez-vous le retenir là ? Ange, Hébreux 1.14, c'est bien de faire ce lien. Il est dit, premièrement, qu'ils sont au service de Dieu, et deuxièmement, qu'ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et ce salut ne vient pas des anges, il vient de Jésus-Christ. Et si aujourd'hui tu te rends compte que Dieu est saint, tu te rends compte que ton âme est noire, que tu ne peux pas enlever la culpabilité que tu as pour de bonnes raisons, parce qu'on parle des culpabilités pour de bonnes raisons, eh bien, il ne faut pas s'adresser à un ange. Il ne va rien pouvoir faire. Aucun ange n'a le pouvoir de te pardonner, de te purifier, de te transformer. Aucun ange. Seul Jésus-Christ, qui est supérieur aux anges, peut le faire. Et ce Jésus qui est né dans une étable, dans la modestie et notre situation d'homme, ce Jésus qui a vécu une vie humaine parfaite, qui est Dieu en même temps, homme et Dieu. Ce Jésus qui a pris sur lui le péché de quiconque croit en lui, à la place du pécheur repentant. Ce Jésus qui est ressuscité et qui est maintenant à la droite du Père et qui va revenir pour juger le monde, c'est ce Jésus-là que nous voulons adorer. C'est vers lui que nous voulons faire monter nos prières. Si les anges ont présenté une carte de naissance vivante aux bergers, c'est pour diriger nos regards non pas vers les anges, mais vers lui, celui qui est né, qui est venu pour porter le péché du monde. C'est vers Jésus qu'il faut tourner nos regards pour vivre un réel joyeux Noël. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes étonnés parfois de voir les moyens que tu utilises pour annoncer des choses, pour protéger, pour guider, pour encourager. Seigneur, tu as tes envoyés, tu as tes messagers et tu le fais parfois aussi au travers des anges. Et nous te remercions, Seigneur. Te remercions parce que tu as créé tout un monde angélique qui nous dépasse complètement et tu le mets même au service de ta gloire pour que nous puissions apprendre à te connaître, pour que nous puissions être guidés dans l'Évangile, pour que nous puissions être gardés. Et j'aimerais te prier, Seigneur, que si nous avons parfois été tentés d'entrer en contact avec des anges ou de chercher à, quelque part, trouver une faveur d'esprits qui sont dans le monde invisible. Si cela arrivait, Seigneur, nous aimerions simplement te demander pardon. Parce que cela a manifesté que nous te mettions à une seconde place. Nous voulons, Seigneur, que tu sois à la première place. C'est vers toi que nous voulons tourner nos regards. C'est vers toi que nous voulons appeler au secours. C'est vers toi que nous voulons aussi venir pour t'apporter nos souffrances, nos difficultés. C'est toi seul qui es notre ressource et tu as des moyens ensuite pour nous encourager, nous guider, nous garder, nous bénir. Et nous te remercions pour cela. Permets que dans ces temps de Noël, lorsque nous voyons des anges, même en décoration, nous soyons capables de prendre un recul par rapport à parfois des choses qui sont grotesques,
pour tourner nos regards vers Christ, parce qu'en fait, tous les anges de la parole de Dieu ont un respect profond de toi, de Christ, et que cela puisse nous aider même peut-être à être des témoins de qui tu es dans ces temps de Noël, parce que nous désirons que chacun vive réellement un joyeux Noël, non pas en regardant les anges, mais en regardant où les anges poussaient à nos regards, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.